Il y a quelques jours, j'ai acheté un petit pot de miel. Et en regardant ce joli liquide doré dans le pot, j'ai pensé à ces passages bibliques qui parlent du miel. Vous vous souvenez, Dieu avait promis un pays où coule le lait et le miel. Un pays extraordinaire. C'était la terre promise pour le peuple hébreu. Les chrétiens aussi attendent la terre promise, une terre promise bien différente. Nous attendons effectivement une terre promise où coule le lait et le miel dans une dimension éternelle. Mais vous vous souvenez aussi que certains passages parlent du miel en rapport avec Jésus. Dans le livre du prophète Ésaïe, par exemple, il est dit « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien ». C'est un texte messianique et il nous est dit que Jésus va manger du miel et de la crème. Dans la bouche de Jésus se trouve ce qu'il y a de plus riche, ce qu'il y a de plus doux. Et effectivement, dans la parole de Dieu, le miel est une image de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, il est écrit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche ». Le miel, c'est une image de la parole de Dieu. Et vous vous souvenez que le sage dans les Écritures nous invite à aller dans la nature pour prendre des leçons de vie chrétienne. Alors, en pensant à ce pot de miel qui était là, avec lequel j'ai eu un excellent petit déjeuner, j'ai pensé aux abeilles qui ont fait ce miel pour moi. Et en réfléchissant aux abeilles, j'ai trouvé une foule de parallèles avec notre vie chrétienne et avec l'Église. J'aimerais, si vous le voulez bien, en partager quelques-uns avec vous ce matin. Les abeilles vivent pour servir. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Les abeilles vivent pour servir. Elles travaillent. Elles ne font que ça. Et elles nourrissent. Elles nourrissent les autres. Elles nourrissent tous ceux qui vont acheter du miel, bien entendu. Mais elles nourrissent aussi les larves dans la ruche. Elles vont nourrir aussi la reine. Elles vont nourrir les bourdons, elles vont se nourrir mutuellement. Les abeilles, elles servent, elles nourrissent les autres. Mais pour nourrir les autres, il faut se nourrir soi-même. Et c'est ce qu'elles font. Elles partent dans les champs, elles prennent du pollen, elles le ramènent à la ruche, elles font du miel, elles se nourrissent elles-mêmes et elles nourrissent les autres. Et j'ai pensé que dans l'Église, c'est ce que nous sommes invités à faire. À travailler pour nourrir les autres. Ce n'est pas simplement le rôle du pasteur de faire cela. Et nous ne sommes pas non plus invités à venir à l'église une fois par semaine pour avoir un seul repas spirituel par semaine et ne compter que là-dessus pour être nourris. Nous sommes invités à nous nourrir nous-mêmes pour pouvoir nourrir les autres. Tous ceux qui autour de nous ont besoin aussi d'être nourris de la parole de Dieu. D'être nourri de notre témoignage, d'être nourri des expériences que nous avons faites avec Dieu par lesquelles il nous a encouragés, soutenus, guidés, conduits dans la vie chrétienne. Travailler pour nourrir les autres. Vous connaissez ce texte qui se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 2, au verset 9 où il est dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et vous connaissez aussi ce passage de l'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 13 où il est dit « Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » La deuxième leçon que je trouve en regardant les abeilles, c'est que les abeilles produisent plus que ce dont elles ont besoin. Dépendant de la saison, dépendant du nombre d'abeilles dans la ruche, dépendant de plusieurs facteurs, une ruche peut produire entre 25 et 40 kilos de miel par année. C'est bien plus que ce dont elles ont besoin. Et en effet, elles travaillent pour nourrir les autres. Elles travaillent plus que ce qu'elles ont besoin pour elles-mêmes. Et je pense à Jésus qui faisait exactement la même chose. Souvenez-vous, lorsque ce petit garçon apporte son casse-croûte à Jésus pour nourrir des milliers de gens, Jésus va accomplir ce miracle que nous connaissons comme le miracle de la multiplication des pains. Et le texte nous dit que tout le monde a eu largement assez de pain et de poisson pour se nourrir ce jour-là. Mais le texte nous rappelle, vous connaissez cette histoire qui est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 6, que lorsque tout le monde avait bien mangé, il restait encore 12 paniers de pain et de poisson qui restaient. 12 paniers. Pourtant, le peuple de Dieu qui était là, au pied de Jésus, avait été nourri entièrement. Il en restait encore 12 paniers. Pourquoi 12 paniers? 12 dans les Écritures, c'est le chiffre du peuple. C'est en rapport avec le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu avait été nourri et il restait encore 12 paniers. Pour nourrir quel peuple? L'autre peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu qui est dans le reste du monde, vers lequel les apôtres sont envoyés par Jésus lorsque Jésus remonte au ciel. Il en restait encore pour tous les autres, tous ceux qui ne faisaient pas partie de cette nation juive et qui étaient destinés à recevoir eux aussi le pain de la parole de Dieu. Jésus en avait fait largement, en abondance, plus que ce qui était nécessaire pour les gens qui étaient là, mais en suffisance pour ceux du monde entier. Et puis, souvenez-vous, lorsque Jésus est invité aux noces de Cana, on le rend attentif au fait qu'il manque du vin. Et vous vous souvenez comment Jésus va produire du jus de raisin avec l'eau des vases de pierre qui sont là pour les cérémonies. Mais si vous faites le calcul de ce que Jésus va produire comme jus de raisin, ce n'est pas juste un litre ou deux pour satisfaire le besoin immédiat. Évidemment, il faudrait savoir exactement à quoi correspondent les mesures. Bien sûr, les commentateurs ne sont pas tous d'accord, mais pour avoir une idée, on peut évaluer que Jésus, ce jour-là, a fait environ 400 litres de jus de raisin. C'était plus que ce qui était nécessaire pour la fête. Jésus fait plus et au-delà de ce que nous lui demandons. Nous sommes invités, nous, de la même manière, à faire plus que ce que nous avons besoin pour pouvoir servir les autres. Et la parole de Dieu nous invite à cela. Regardez ce passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. J'aimerais lire à partir du verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7, il est écrit ceci. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre à accomplir. Lorsque le Seigneur aura comblé vos besoins. Regardez bien, il en reste encore en abondance pour combler le besoin des autres. C'est ce que les abeilles font finalement, c'est ce que nous sommes invités à faire aussi. La troisième leçon que je trouve chez les abeilles, c'est celle-ci. L'abeille partage la bonne nouvelle. Une abeille peut voyager jusqu'à 12 km pour trouver un champ, pour trouver une source de pollen suffisante. 12 kilomètres pour une toute petite bestiole comme ça. Quand vous aurez marché 12 kilomètres, vous saurez que vous aurez marché 12 kilomètres. Elle peut aller jusqu'à 12 kilomètres pour trouver du pollen. Alors, elle va aller par-ci, aller par-là. Mais lorsqu'elle a trouvé son pollen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ah, j'ai trouvé du pollen, c'est tout pour moi, je vais tout manger ce qu'il y a dans ce champ. Non, la première chose qu'elle fait, c'est retourner en ligne droite à sa ruche. En ligne droite à sa ruche. Et là, elle va dire aux autres ce qu'elle a trouvé. Là, elle va faire une espèce de danse qui va indiquer aux autres, avec précision, à quelle distance le champ se trouve et quel angle il faut prendre pour y aller par rapport au soleil. toutes ces indications, elle va les donner aux autres qui sont dans la ruche. Vous pouvez tuer cette abeille, les autres vont trouver le champ tout de suite et pouvoir se nourrir. Dans l'Église, nous sommes aussi invités à partager la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas invités à nous dire « Ah, ça c'est extraordinaire, je vais garder ça pour moi tout seul. » Et les autres, tant pis pour eux, ils n'en sauront rien. Nous sommes invités justement à partager cette bonne nouvelle que nous avons, à partager les expériences de foi que le Seigneur nous a donné de vivre. Et nous sommes invités à nous diriger d'après la lumière du soleil de justice dans les Écritures, d'après la vérité que le soleil de justice nous donne. C'est par ce moyen-là que nous sommes sûrs de nous rendre au bon endroit. Nous sommes invités aussi à partager la bonne nouvelle de ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage dans le livre des Actes au chapitre 26, où Jésus lui-même parle à l'apôtre Paul, celui que nous appellerons après, plus tard, l'apôtre Paul. Il raconte, dans le chapitre 26 du livre des Actes, son expérience sur le chemin de Damas, et il rapporte ce que Jésus lui dit. Verset 17, Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17, il est écrit ceci. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Saul de Tarse est appelé à aller vers ceux vers qui Jésus les envoie pour les amener à la lumière, pour partager l'expérience de foi qu'il vient de vivre avec lui. De la même manière, dans l'Église, nous sommes invités à partager la bonne nouvelle. Quatrièmement, j'ai découvert que les abeilles travaillent dur. Elles travaillent très dur. Écoutez ceci. Pour faire une cuillère à soupe de miel, une abeille, si elle est toute seule à faire cette cuillère à soupe de miel, doit faire 4200 voyages vers les fleurs pour pouvoir produire une cuillère à soupe de miel. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, elles peuvent aller jusqu'à 12 km pour chercher du pollen. Et dans une journée, une abeille peut faire jusqu'à 10 voyages vers le champ pour aller recueillir du pollen. Chaque voyage peut durer entre 20 et 30 minutes. Voilà à quoi une abeille passe sa journée. Maintenant, pour produire 500 g de miel, un demi-kilo de miel, une étude a été faite pour évaluer le travail que cela représente, si c'était une abeille qui le fait. Un scientifique du nom de Heinrich a évalué le travail d'une butineuse. Et il dit que pour produire 500 g de miel, l'abeille doit faire 17 000 voyages vers le champ. Elle doit visiter 8 700 000 fleurs. Et cela représente pour elle 7 000 heures de travail. Ce faisant, avec tous ses voyages, elle a fait environ 3 fois le tour de la Terre en volant. Une abeille pour produire 500 g de miel. Mon pot est bientôt fini, celui que j'ai acheté, celui dont je vous parlais en commençant. J'ai pratiquement mangé en quelques jours, voilà tout le travail de cette abeille. Les abeilles travaillent dur. Elles sont persévérantes. Et dans l'Église, nous sommes appelés aussi à être des travailleurs avec Christ. Vous connaissez ce passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 9, où il est dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » C'est de la collaboration à laquelle nous sommes invités, de la collaboration avec Dieu. Et puis je pense à cet autre passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9. Au verset 38, Jésus dit « Priez le Maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et ces ouvriers ne sont pas les spécialistes, les pasteurs, ceux qui ont étudié beaucoup pour ça. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Nous sommes tous invités à faire partie de la ruche de l'Éternel et à y remplir notre rôle. Cinquièmement, la leçon que j'ai trouvée par rapport aux abeilles, c'est que chaque abeille a son travail. Il y a plusieurs sortes d'abeilles. Il y a les ouvrières, les butineuses, qui font tous ces voyages, aller et venir pour ramasser le pollen et fabriquer le miel. Mais il y a aussi les soldats qui sont sur la planche d'envol devant la ruche. Et observez une ruche. Si un insecte essaye de rentrer dans la ruche, vous avez les soldats qui vont le mettre dehors. Et si c'est un gros insecte, un peu récalcitrant, il va être piqué et exécuté. On ne rentre pas dans la ruche comme ça. Il y a des soldats à l'entrée. Et puis, à l'intérieur, il y a la reine. Elle a aussi un rôle différent. Et à l'intérieur, il y a les nettoyeuses. Il y en a qui sont chargés de sortir toutes les saletés qui ont été ramenées et les mettre à l'extérieur. Et il y en a qui ont un rôle bien particulier. Les ruches ont l'air climatisé. Vous saviez ça? Eh bien, ceux qui ne l'ont pas dans leur maison, sachez que les abeilles sont plus avancées que vous. Il y a des abeilles dans les ruches qui ont un rôle particulier, c'est de faire marcher leurs ailes de manière à faire baisser la température en été. Et ainsi, leur rôle est de garder l'air climatisé dans les ruches. Fantastique! Les abeilles ont tout un rôle précis à l'intérieur de la ruche. Et vous l'entendez, je le disais en commençant, ces analogies avec l'Église sont nombreuses. Mais il y a dans la ruche une autre sorte d'abeille qu'on appelle les faux bourdons. Les faux bourdons, ils ne font pas de miel, ils ne piquent pas, ils ne mangent pas. On est obligé de les nourrir. Ils ne pondent pas, ils ne nettoient pas, ils ne ventilent pas. Ils ne gardent pas, ils ne font pas de miel, ils ne collectent pas de pollen. Mais qu'est-ce qu'ils font alors? Ils fécondent les œufs, c'est tout. Ils font partie de la ruche. Et je vous disais, c'est une parabole de l'Église. Il y a parfois des gens dans l'Église, on se demande ce qu'ils font. Il y en a qui font très peu, mais ils font partie de la ruche quand même. Ils font partie de la ruche et le peu qu'ils font est important pour la ruche. Le peu qu'ils font est important pour la ruche. Nous sommes invités à utiliser nos talents et nos dons pour servir dans la ruche du Seigneur. Vous connaissez ce passage dans la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Il est écrit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Encore une leçon des abeilles. La sixième leçon des abeilles, c'est celle-ci. Les abeilles soutiennent leur reine. Ce sont de bonnes citoyennes. Lorsque il faut remplacer la reine, les abeilles vont nourrir une larve, en particulier avec de la gelée royale. C'est cette nourriture spéciale qui va permettre d'élever une nouvelle reine dans la ruche. Mais si la reine n'est pas en bonne santé, la ruche entière est en mauvaise santé aussi. Si la reine s'en va, tous les saints partent avec. Et il arrive parfois d'ailleurs qu'il y ait deux reines parce qu'il y a trop de monde dans la ruche. Alors une reine s'en va, les abeilles vont essaimer. C'est un bon signe dans un sens, parce que c'est un signe de croissance. Mais les abeilles soutiennent leur reine. Et j'ai pensé que dans l'Église, nous avons besoin d'apprendre à soutenir ceux à qui nous avons donné une responsabilité. On a parfois l'impression que nous nommons des responsables pour avoir enfin une cible vers qui lancer toutes nos critiques. Les abeilles, elles soutiennent leur reine. Et je vous propose dans l'Église de soutenir ceux à qui vous avez donné des responsabilités. Les anciens, ceux qui ont des tâches à remplir, ceux qui sont des responsables dans l'Église, donnez-leur le soutien, le support pour que, ensemble, le travail de notre ruche soit fructueux. Nous y sommes invités d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 17. Vous connaissez ce passage, Épître aux Hébreux, chapitre 13 verset 17. Un conseil approprié, je trouve. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà ce que nous sommes invités à faire, à soutenir, à encourager, à apporter notre aide à ceux à qui nous avons donné des responsabilités. La septième leçon que j'ai trouvée dans la ruche, c'est celle-ci. L'abeille est optimiste. L'abeille est optimiste. Vous avez remarqué de quelle couleur sont généralement peintes les ruches ? De couleurs vives, de belles couleurs. Les abeilles aiment ce qui est joyeux, ce qui est coloré, ce qui est lumineux. Elles reconnaissent ainsi leur ruche parmi les autres. Mais lorsqu'elles vont dans les champs, les abeilles vont sur les fleurs. S'il y a dans ce champ ou au bord de ce champ du bois pourri ou des saletés d'une nature ou d'une autre, s'il y a au bord du champ un animal qui est mort en décomposition, c'est pas là que les abeilles vont aller, elles vont aller sur les fleurs. Et si elles trouvent des fleurs avec des épines, elles ne vont pas aller sur les épines, elles vont aller sur les fleurs. Et je peux imaginer que l'abeille ne rentre pas dans sa ruche en disant « J'ai trouvé du pollen, mais écoutez, là-bas, vous auriez voir, ces hommes, ils ont laissé une saleté dans ce champ, c'est épouvantable !» Non, non, elle n'a rien vu de toute cette saleté, l'abeille. Elle a vu la fleur, c'est là qu'elle est allée. Elle n'a pas vu les épines, elle a vu la fleur, c'est là qu'elle est allée. De la même manière, de quoi nous nourrissons-nous dans l'Église ? De ce qui est beau, de ce qui est louable, de ce qui est merveilleux, de ce qui est saint ? Ou bien est-ce que nous nous nourrissons de toutes les mauvaises histoires, ou des péchés des autres, ou des mauvaises nouvelles, ou de la pourriture que l'humanité répand ? De quoi est-ce que nous nourrissons dans l'Église ? Est-ce que nous recherchons ce qui est élevé ? Est-ce que nous butinons sur les fleurs ? Sur ce qui est beau, sur ce qui sent bon. Est-ce que c'est là que nous allons de préférence ? Vous vous souvenez, l'apôtre Paul, encore dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, proposait justement cela. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4. À partir du verset 8, l'apôtre Paul écrit ceci. Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà encore une leçon de la ruche. La huitième leçon que j'ai trouvée dans la ruche, c'est que l'abeille naît deux fois. Vous saviez ça ? La reine va déposer des œufs dans les alvéoles. Cet œuf va devenir une larve que les abeilles vont nourrir régulièrement pour la faire grandir. Et puis, un jour, les abeilles vont mettre de la nourriture dans l'alvéole. Elles vont fermer l'alvéole et la larve va être prisonnière parce qu'il va se passer pendant ce moment-là une métamorphose. Ce petit ver va devenir une abeille, des ailes, une transformation de son corps extraordinaire, une deuxième naissance, si vous voulez. Et puis un jour, elle va ouvrir l'alvéole, elle va sortir, elle va déplier ses ailes et elle sera prête pour travailler. Les abeilles naissent deux fois. Mais le chrétien aussi est appelé à naître deux fois. L'expérience de la nouvelle naissance à laquelle Jésus avait appelé Nicodème, n'est-ce pas ? Vous vous en souvenez ? La nouvelle naissance. Mais remarquez, quand l'abeille sort enfin, métamorphosée de son alvéole, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle se met au travail tout de suite. Vous allez me dire, ça c'est l'instinct que Dieu a mis dans cette petite créature qui, de l'intérieur, lui dit ce qu'elle doit faire. Mais de la même manière, lorsque nous vivons la nouvelle naissance, Dieu nous donne son esprit pour nous guider dans notre vie, pour nous dire ce que nous devons faire, pour nous faire comprendre à quoi il nous appelle. C'est le Saint-Esprit qu'il met dans nos cœurs et qui nous guide dans le travail de la ruche de l'Éternel, dans l'Église. Vous vous souvenez, Jésus disait à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » La neuvième leçon que j'ai trouvée dans la ruche, c'est celle-ci. Les abeilles travaillent avec des alvéoles. Les alvéoles, ce sont ces constructions à six côtés dont elles remplissent les cadres de leur ruche et qu'elles remplissent soit des larves, c'est la reine qui s'en occupe, des œufs, soit de miel. Ces alvéoles sont extraordinaires. En fait, on n'a pas trouvé une forme plus efficace pour utiliser l'espace. On n'a pas trouvé une forme plus solide pour former un ensemble. L'alvéole, c'est la forme la plus rentable. Et c'est les abeilles qui ont inventé ça. Mais remarquez une chose. Lorsque les abeilles construisent six alvéoles, les unes autour des autres, attachées les unes aux autres, au centre, il y a un trou. C'est une septième alvéole. Et celle-là, elle s'est faite toute seule. Les abeilles, lorsqu'elles construisent ainsi six alvéoles, en construisent automatiquement une septième juste au milieu. Et je pense à ce que le Seigneur nous a donné comme forme de vie la plus efficace, la plus rentable. Vous vous souvenez, il nous invite à travailler six jours. Et lorsque nous travaillons six jours, il nous donne le repos, le septième. C'est le jour qui est au centre. C'est le jour où lui est au centre de toute notre vie, le septième jour. C'est ainsi que le Seigneur nous donne ce mode d'emploi le plus épanouissant de notre vie chrétienne. Et vous vous souvenez ce qui est écrit dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, au verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Lorsque nous travaillons six jours, il nous offre le repos du septième jour. La dixième leçon que j'ai trouvée dans la ruche, c'est celle-ci. Les abeilles ont un apiculteur. L'apiculteur prend soin des abeilles. Il prend soin de sa ruche. Il la surveille. Il veille à ce que les abeilles aient assez à manger. Il veille à ce qu'il n'y ait pas des parasites qui soient rentrés dans la ruche. Il veille à ce que les abeilles soient en bonne santé. Il protège sa ruche. Il bénéficie de ce qu'elles produisent, sans aucun doute. Mais il travaille pour protéger sa ruche. Certains apiculteurs sont particulièrement habiles. Et ils ont développé avec les abeilles de leur ruche une certaine relation qui fait que les abeilles connaissent la voie de l'apiculteur. Certains apiculteurs, particulièrement habiles, réussissent à travailler dans leur ruche, sans masque, sans voile, sans gants, les mains libres. Et ils parlent à leurs abeilles, et leurs abeilles ne les piquent pas. Et j'ai pensé à l'Église. L'Église a aussi un maître apiculteur, le Seigneur Jésus. Le problème, c'est que nous avons piqué l'apiculteur. Nous l'avons piqué à mort. Et cependant, il prend encore soin de sa ruche. C'est cet apiculteur qui a donné sa vie pour ses abeilles. Nous avons piqué l'apiculteur à mort. Celui qui est venu mettre ses mains dans la ruche pour la garder, pour la soigner, nous l'avons piqué. Heureusement, cet apiculteur vit encore aujourd'hui. Il vit pour soigner sa ruche. Il vit pour ses abeilles. Et vous connaissez ce passage du prophète Ésaïe, au chapitre 53, qui parle de cet apiculteur. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La ruche a un apiculteur, et l'apiculteur soigne la ruche. Et nous sommes invités à connaître notre apiculteur Il a été piqué une fois pour toutes, mortellement. Nous sommes invités à collaborer avec lui dans l'œuvre qu'il nous propose, d'apporter à l'humanité ce qu'il y a de plus riche et ce qu'il y a de plus doux. Alors je me pose la question, quand je vois la ruche, quand je vois l'harmonie, quand je vois comment Dieu a fabriqué cette ruche pour qu'elle fonctionne d'une façon extraordinaire, je pense à l'Église et je me dis, mais est-ce que nous allons faire moins bien dans l'Église que les abeilles dans leur ruche? Le Seigneur nous a donné non seulement aussi d'avoir le maître apiculteur avec nous, mais il nous a donné son esprit pour savoir ce qu'il attend de nous. Est-ce que la ruche du Seigneur devrait fonctionner moins bien que la ruche qui est au fond du champ? Que le Seigneur nous aide à être dans sa ruche, des abeilles fidèles à son service. Amen.